Salut Amandine, salut René.
Bonjour Marc.
Bonjour Marc.
Ravi de vous retrouver pour cette série qu'on fait sur ce que fait Planète Urgence en Afrique. Ça consiste toujours à plus ou moins planter des arbres, replanter des arbres, mais aussi faire des choses en partenariat, en étroit lien avec les gens qui habitent dans ces régions. René, aujourd'hui, dans cet épisode, on va mettre le focus sur ce qui se passe dans cette bande sahélienne au nord du Cameroun, là où vous plantez les fameuses noix de cajou. Est-ce que tu peux présenter cette région ?
Cette région, c'est la zone soudano-sahélienne. C'est une région à fort enjeu autour de la désertification, l'avancée du désert. On a un focus dans cette région-là sur le lac Tchad. C'est un grand lac, n'est-ce pas, situé entre le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, mais avec l'influence aussi d'autres pays comme la Libye et la Centrafrique. C'est un grand lac qui est alimenté par deux grands bassins. Le bassin du fleuve de la Koumadougou-Yobé, entre le Niger et le Nigeria, et le bassin de la pleine inondation du Logone, avec le Chari, qui part depuis la Centrafrique, et le Cameroun, donc Logone et Chari, qui vont alimenter ce lac-là. Mais tout ce bassin, tous ces deux grands bassins, ont une influence sur l'alimentation du lac dans sa globalité. Mais seulement en amont, il y a des activités d'irrigation, d'agriculture, l'ensablement qui vont faire à ce que ce lac-là va perdre sa superficie énormément.
Effectivement, en fait, on est sur une zone où on a 30 millions de personnes qui vivent de l'eau douce, du lac Tchad. Mais cette eau douce, elle est de plus en plus rare et même extrêmement rare sur cet écosystème puisqu'on a perdu 90% de la surface du lac Tchad. Il faut avoir en tête que là, on se parle d'une vraie catastrophe humanitaire puisque le lac Tchad, c'était 25 000 km² dans les années 60 et aujourd'hui, il ne reste plus que 10% de sa surface. 10% de la surface du lac Tchad.
C'est un peu la mer d'Aral d'Afrique.
Exactement. Et donc, ça veut dire que tous les pêcheurs, les agriculteurs, les bergers qui pouvaient vivre grâce à cette eau douce sont forcés à l'exode. Ça veut dire aussi qu'on a des organisations terroristes comme Boko Haram qui ont multiplié les exactions. On a des zones qui sont de plus en plus violentes. Et donc, nous, sur le nord du Cameroun, on va avoir des pressions migratoires très fortes avec des mouvements de population importantes qui vont venir s'installer entre les parcs nationaux, là où ils ont encore le droit de s'installer, mais qui sont souvent des parcs et des espaces de corridor pour la biodiversité. Et donc, on a un vrai enjeu de trouver une façon pour les populations de vivre sur ces espaces-là, tout en gardant des corridors suffisamment hauts, feuillus, pour que la population de singes ou toutes les autres populations animales puissent bouger d'un parc à l'autre.
La transition est parfaite, René, puisque c'est dans ces endroits, c'est dans ces zones, c'est dans ces corridors que vit Taurotragus derbianus, alias l'élan de Derby. C'est un peu lui, notre animal emblématique de cet épisode. L'élan de Derby, alors je précise tout de suite que élan s'écrit avec un D, hein, contrairement à notre élan qui vit plutôt en Scandinavie chez nous, qui est un des plus grands cervidés. Alors ça, je parle de l'élan sans D, et l'élan avec D, celui d'Afrique, c'est un bovidé. Hein, tout simplement la plus grande antilope du monde. Les plus grandes, les plus grosses pesaient presque une tonne. En moyenne, il fait quand même 600 kilos. Hein. On est loin de la petite gazelle de Thompson ou même de l'impala ou de toutes ces autres antilopes. Mon cher René, comment tu décrirais ce géant, cet élan de Derby qui vit dans ces régions où vous travaillez et où vous essayez de protéger ces corridors pour que ces animaux puissent continuer à vivre ?
Oui, effectivement, l'élan de Derby, c'est une grosse antilope, la plus grande d'Afrique.
Et du monde.
Et qui est située beaucoup plus autour de l'équateur. Hein. La plus grande partie de la population de l'élan de Derby est retrouvée au Cameroun. C'est pour ça que c'est une espèce emblématique pour le Cameroun. D'ailleurs, vous verrez que le buste de l'élan de Derby est inscrit sur la pièce de 100 francs CFA.
Donc c'est une énorme antilope, je rappelle qui fait partie de la famille des bovidés. Hein. Les bovidés, c'est les bovins, les ovins, les caprins, là-dedans il y a aussi les antilopes, et plus précisément un boviné. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les bovinés c'est juste les bovins et les antilopes, si je ne dis pas de bêtises. Donc bref, l'élan de Derby, il a des magnifiques cornes spiralées, il a une autre caractéristique, c'est que le mâle, il a un fanongulaire, c'est le terme technique, il a une espèce de repli de peau qui pend sous la gorge, on va dire ça comme ça, sous son cou. Et voilà, ce fanongulaire, il est connu chez les lézards. Il leur permet d'ériger une sorte de drapeau qui leur sert à draguer les femelles. Dans le cas des lézards, c'est les plus spectaculaires fanongulaires. Mais on a aussi des animaux, des mammifères, bah, comme cet élan de Derby, qui possèdent ce fameux repli de peau. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me raconter? Qu'est-ce que tu peux m'émerveiller, mon cher René, sur cette antilope gigantesque qui fait 2 mètres au garrot?
Oui, les locaux l'appellent Yambusa. Pour eux, c'est une espèce mythique. Yambusa dans la langue Peul du Nord Cameroun. Et c'est une grosse antilope qui se diffère aussi non seulement par sa taille, mais par les rayures autour de son flanc. Vous allez voir environ 12 rayures autour du flanc, à ne pas confondre par exemple avec les rayures du bongo, une autre espèce d'antilope qui se retrouve dans la zone forestière plutôt, ou bien même avec les chevrotins aquatiques par exemple. Donc c'est cette différence-là, et c'est une grosse bête. Lorsque tu le vois dans la savane, il est comme un gros cheval. Il a cette caractéristique qu'il se nourrit des espèces de la savane, telles que les acacias, beaucoup plus. Hein. Ils vont aller,
comme les girafes.
Voilà. La femelle est un peu plus petite, avec les cornes un peu plus moyennes. Voilà. Mais la femelle a une gestation d'environ 8 à 9 mois, un peu comme l'humain, voyez-vous. Et nous, on les retrouve beaucoup plus dans le parc national de Boumbambek. Parce qu'au niveau du parc national de Ouaza, le braconnage a fait reculer énormément cette espèce. Mais nous avons encore, du fait des actions des ONG autour du parc national de Boumbandida, autant pour moi, on trouve une grosse population de cette espèce-là. Voilà globalement ce géant de la forêt qui, pour nous, reste une espèce emblématique à protéger.
René, il y a une autre star dans ces régions. C'est un des 2 éléphants d'Afrique. On le sait peu, il y a 2 espèces d'éléphants d'Afrique. Il y a l'éléphant de savane et il y a l'éléphant de forêt. C'est ça?
En effet, on a 2 espèces d'éléphants au Cameroun. On a l'éléphant de forêt qui se retrouve beaucoup plus dans la partie sud, forêt dense et humide, et même dans une partie des forêts de haut plateau. C'est des éléphants de petite taille. Ce sont ces éléphants-là qui s'appellent l'Oxodonta cyclotis. Ça, c'est l'éléphant de forêt. Alors que leurs cousins de la zone soudano-sahélienne, c'est les éléphants de savane, qui sont plus grands, avec de grandes oreilles, alors que l'éléphant de forêt a de petites oreilles.
Plus petites, quand même.
Plus petites.
Mais plus grandes que leurs cousins d'Asie.
Juste oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Plus grandes que leurs cousins d'Asie. La différence, parce que l'éléphant sert de leurs oreilles un peu comme des radiateurs.
Oui, comme un climatiseur.
Des climatiseurs, pardon. Donc, lorsqu'on est dans la zone soudano-sahélienne, c'est une zone où on atteint parfois les 49 degrés à l'ombre, comme ça sur quasiment 5 mois dans l'année. Et donc, du coup, c'est pour ça que cette morphologie-là a été développée comme un climatiseur pour se ventiler. Donc, l'éléphant de la zone de savane s'appelle le Loxodonta africana, alors que celui de la zone de forêt, c'est le Loxodonta cyclotis, qui a une taille qui est adaptée au déplacement dans la forêt. En savane, on a des éléphants encore plus grands qui peuvent atteindre 3,5 mètres au garrot, alors que ceux de la forêt sont autour de 3, moins de 3 mètres au garrot.
D'accord René, je vois qu'il y a des problèmes de braconnage évidemment, le prix de l'ivoire a grimpé en flèche, c'était aujourd'hui c'est 200 euros je vois le kilo d'ivoire, contre quasiment 10 fois moins il y a encore 10 ans. Donc l'ivoire devient cher, donc on comprend que ça entraîne du braconnage. Moi, je me souviens, j'ai parlé des éléphants récemment dans des émissions et dans des postes. Il reste 400 000 éléphants en Afrique. Il en reste que 50 000 en Asie, au passage, je crois. Donc bref, donc il a de moins en moins d'éléphants. Tu connais la proportion entre forêt, savane?
Bon, on a plus d'éléphants de forêt quand même.
Que d'éléphants de savane?
Que d'éléphants de savane.
D'accord.
Oui, parce que la chasse est plus prononcée dans les zones de savane où les braconniers peuvent se mouvoir très rapidement pour s'attaquer aux éléphants. D'où même il y a un programme qui a été mis en place pour lutter uniquement contre le braconnage d'éléphants et suivre les éléphants. C'est le programme MIKE, Monitoring Illegal Killing of Elephants, qui est développé au Cameroun pour suivre les éléphants. Parce que cette problématique du braconnage de l'éléphant devient de plus en plus cruciale.
En gros, votre programme, c'est quoi là-bas? Donc, en gros, c'est le désert. Et concrètement, vous faites quoi?
Dans la zone soudano-sahélienne, nous avons pensé à mettre en place un projet de restauration des écosystèmes autour du parc national de la Benoué à travers une filière qui s'appelle l'Anacard. Nous plantons des arbres, des anacardiers, la noix de cajou. Chez nous, c'est l'or vert. Et des espèces indigènes. pour restaurer les corridors, c'est-à-dire l'habitat de la faune qui a été détruite autour du parc national de la Benue. Environ 80 à 85% de ces arbres-là sont des anacardiers qui apportent une plus-value économique en période de soudure pour les communautés.
Amandine, après ce que vient d'expliquer René, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter sur ce projet dans cette zone spécifiquement ?
Donc c'est vraiment un projet qu'on a lancé en 2019, donc il est assez récent, mais qui avait été avant cela le fruit de 2 années de diagnostic, de compréhension locale des enjeux, des dynamiques, des ONG qui pouvaient être partenaires et des acteurs. Et donc on fait vraiment ce lien entre la plantation d'espèces indigènes, la plantation d'anacardiers, donc l'arbre anacardier, et aussi la sensibilisation des agriculteurs locaux à des techniques d'agroforesterie, parce que la noix de cajou, elle va donner une fois dans l'année, et d'ailleurs elle va donner au bout de quelques années, hein, 4 à 5 ans pour avoir une cajou mûre. Ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent vivre aussi entre ces périodes de récolte. Donc on va mettre la tomate, du haricot, du manioc sur ces espaces-là pour avoir une alimentation au quotidien. On a eu une première phase de projet qui s'est terminée en 2022, donc là on avait planté plus de 300 000 arbres, toutes espèces confondues, en 3 ans. Là, on fait une deuxième phase de projet à 5 ans, avec tout un enjeu d'intégrer une filière, en fait, anacarde, de construire une filière anacarde qui soit durable et qui soit juste pour les agriculteurs locaux.
Ouais. René, je pense que c'est le moment que tu nous en dises plus sur la fameuse noix de cajou. C'est la partie du fruit d'un arbre incroyable qui porte le cœur dans son nom, l'anacardier.
Oui, l'anacardier, c'est une espèce à usage multiple qui se développe plus dans les zones à climat aride. Donc c'est une espèce qui peut atteindre environ 7 mètres d'envergure. L'houppier peut atteindre environ 7 mètres d'envergure.
Ah, le houppier.
La touffe des feuilles, ouais. Ouais, peut atteindre environ 7 mètres d'envergure et qui peut produire jusqu'à 25 ans. Dès la plantation, la troisième année, quatrième année, on commence déjà à récolter les fruits. Et ces fruits-là, ce sont des pommes de cajou. Et en bas, à l'extérieur du fruit, ce n'est pas comme tous les autres fruits, on retrouve les graines plutôt à l'intérieur, on a ce fruit-là dur, à coque dure, qui se retrouve plutôt à l'extérieur du fruit. Et c'est ça qui est la noix de cajou.
Oui.
On a 2 productions par an, généralement autour de février et en octobre en général. Ces périodes-là sont des périodes où il n'y a pas d'activité, où il y a la famine dans les villages, où il y a peu de revenus. Ça permet donc aux communautés de traverser cette période de soudure-là et d'avoir des revenus supplémentaires. Il faut dire que les dérivés de la production de noix de cajou, on peut avoir des chips de cajou, on peut avoir des vins rosés, vins moelleux, vins rouges, fabriqués comme en Occident, comme ici en France, où on peut avoir ces dérivés-là de la pomme de cajou. Mais avec les noix, on peut avoir des cacahuètes de cajou, on peut avoir des nougats de cajou, on peut avoir des jus de cajou également. Il faut découvrir, c'est pour ça que nous l'appelons l'or vert.
Bien compris. Amandine, je vois bien que c'est ton chouchou, l'anacardier, tu voulais ajouter quelque chose ?
Ouais, on connaît mal cet arbre en France, mais c'est un arbre qui est très haut, donc il fait 6 à 12 mètres de haut et c'est suffisamment haut pour pouvoir avoir ce passage de biodiversité et ça reste feuillu toute l'année, ça ne va pas perdre ses feuilles. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue biodiversité. On est dans une zone désertique, or ce sont des racines qui sont pivotantes et qui peuvent s'enfoncer très très profondément pour aller chercher l'eau. Donc là, on est vraiment sur l'arbre parfait par rapport à notre enjeu sur cette zone soudano-sahélienne.
Il faut dire également que cette espèce-là permet d'être plantée en système agroforestier qui admet d'autres espèces. Le challenge ici, c'est que les populations ne partent pas aller chercher d'autres espaces de culture ailleurs. C'est de pouvoir être capable d'intégrer tout, c'est-à-dire les cultures habituelles du maïs, du sorgho, du coton, du mil, les arachides, du manioc, à l'intérieur des champs d'anacarde. Mais nous allons chercher l'association idéale à travers cette étude-là pour être sûr qu'on va dans le bon sens et que les populations ne partent pas impacter non seulement les corridors que sont les zones de passage de la faune sauvage, mais également le noyau dur de la conservation, c'est-à-dire les parcs nationaux.
C'est bien compris.
Je voudrais juste te dire que c'est une grosse filière et le projet se veut capaciter complètement les communautés en leur donnant tous les outils pour être sûr qu'ils vont aller du début de la chaîne jusqu'à la commercialisation. Et le projet a mis en place des formations sur les techniques agroforestières, sur l'utilisation de la fabrication des produits phytosanitaires biologiques, la sensibilisation, les techniques de récolte durable de la noix de cajou, la mise en place des coopératives, la formation des coopératives sur le marché, quoi, sur la vente.
Amandine, tu veux nous résumer tout ça en quelques chiffres ?
Alors, donc, je vous disais, c'est un projet qui a démarré en 2019 jusqu'en 2022. Tous les ans, sur cette période-là, on était à peu près à 1500 bénéficiaires. On avait créé, par exemple, 8 pépinières. Et c'est un vrai travail à chaque fois, hein, parce qu'il y a les accès à l'eau qui sont importants. Enfin, on est vraiment sur une zone désertique, difficile en termes de sécurité. Donc, il y a eu un premier gros travail de fait. Là, on va passer sur une deuxième étape de projet qui est assez massive en termes de chiffres.
Oui, ce projet, en 2019, dans sa phase pilote, a planté 40 000 anacardiers. Et dans sa phase de développement de 3 ans, nous avons atteint un record de 366 000 arbres plantés au bénéfice de 1 500 producteurs locaux. Nous avons formé ces communautés-là aux techniques de collecte durable de la noix de cajou. Nous avons formé aux techniques d'entretien des vergers. Nous avons formé les communautés également aux techniques de fabrication des produits phytosanitaires biologiques parce que Planète Urgence lutte contre l'utilisation des produits chimiques. L'élevage ici entre en conflit agropastoral avec les champs anacardes. Et donc, on les a mis en réseau pour parler d'un seul ton, d'une seule voix, pour être sûr que les deux peuples cohabitent ensemble.
Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, Amandine ?
On passe là sur une échelle vraiment significative puisqu'on va aller à 2 millions d'arbres plantés à horizon 2026, d'où le besoin de structurer l'impact sur le sol, les alternatives agroforestières. Et donc, on travaille beaucoup avec des chercheurs, avec le parc national à proximité pour faire un projet à l'échelle, mais vraiment en résonance avec les besoins environnementaux et humains.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode consacré à cette bande sahélienne, à ce que vous y faites, aux anacardiers. On a parlé des éléphants, on a parlé du fameux élan de Derby. On va se retrouver dans un prochain épisode pour parler d'une autre région, en l'occurrence avec d'autres pépites du vivant. On va raconter tout ça. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Salut Amandine, salut René.
Merci Marc, à bientôt.
Salut Marc, à bientôt.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?